c'est le moment de l'interview scientifique. Nous accueillons monsieur Adrien Le Saffre, qui est photographe animalier et spécialiste du loup d'Abyssinie plus particulièrement. Donc merci beaucoup Adrien pour votre disponibilité.
Je vous en prie, merci. Merci de m'inviter.
Alors on va vous poser une première question.
Bonjour, je m'appelle Rania et je voulais vous demander si vous pouviez nous expliquer en quoi consiste votre travail.
Alors, bonjour Rania. Donc, comme l'a dit ton professeur, je suis photographe animalier et je vis en Ariège. Je suis donc spécialisé sur le loup d'Abyssinie et mon travail consiste en fait à photographier par passion des espèces animales qui sont peu connues et surtout de le partager avec le public et les enfants aussi. Alors, j'aime particulièrement les environnements afro-alpins, c'est-à-dire les milieux d'altitude en Afrique. Et c'est ce que j'aime faire connaître. Mon travail consiste à faire des reportages photos sur ces espèces-là et à essayer d'en tirer profit à travers des magazines, la presse spécialisée, etc. Je travaille aussi en lien avec des scientifiques. Comme ça, on partage nos connaissances et ça permet de faire des documentations parfois exceptionnelles.
Bonjour, je m'appelle Yana et j'avais une question à vous poser. Depuis quand le loup est-il présent dans les Pyrénées ?
Alors, bonjour Yana. Depuis la fin des années 90, officiellement vu des loups, notamment dans les Pyrénées orientales. Il faut savoir que les loups ont ce formidable pouvoir de dispersion. C'est, à mon avis, une espèce qui est vouée à se répandre et à coloniser chaque espace qui pourrait l'accueillir. On sait qu'en 92, les premiers loups observés en France sont arrivés dans le Mercantour dans les Alpes et chemin faisant, ils sont venus explorer d'autres territoires et notamment les Pyrénées.
Bonjour, je m'appelle Hugo et je voulais vous poser cette question. Quel rôle joue le loup dans l'équilibre des écosystèmes pyrénéens ?
Hugo, bonjour. C'est une excellente question. C'est extrêmement difficile de répondre à cette question-là. On manque cruellement d'observations complètes. Et puis aussi, il faut dire qu'il y a très peu de loups finalement dans nos Pyrénées pour en mesurer l'impact. Par exemple, dans les Alpes, Thierry Maillet, un ancien technicien du parc du Mercantour, lui livre un témoignage assez intéressant. Puisque, bon, on sait que les chevreuils, par exemple, sont la proie principale du loup, mais paradoxalement, la population a considérablement augmenté en 30 ans. Aujourd'hui, on observe plus de chevreuils que de chamois, ça c'est une chose, alors que le loup, lui, devient de plus en plus présent. Il n'y a pas de lien entre ces deux phénomènes-là. Sur le terrain, du coup, on ne remarque aucune modification flagrante sur la faune sauvage et par cascade sur la flore. Peut-être que vous connaissez l'exemple du Yellowstone aux États-Unis, quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est passé là-bas, puisque le loup avait disparu pendant près de 30 ans, hein, pour les mêmes raisons qu'en France, et il a été décidé, une fois que le parc du Yellowstone a été créé, de réintroduire des loups. Et là, les scientifiques ont pu mesurer l'impact réel des superprédateurs, notamment le loup, donc. Ce qu'il s'est passé, c'est que les wapitis, une espèce de cerf local, qui était très présent, abrutissaient complètement la végétation au bord des rivières. Avec la présence des loups, ces wapitis ont dû changer de point de vue, monter un peu plus haut, ce qui fait qu'ils ont mis moins de pression sur la végétation autour de ces rivières, ce qui a permis aux buissons de se redévelopper et d'y accueillir des insectes, des oiseaux. C'est ce qu'on appelle une cascade trophique, en fait. Voilà, le loup met la pression sur ses proies, qui, elles, se dispersent et ravagent moins les arbres, tout ce qui pourrait abriter une autre faune. Voilà. Ils ont aussi fait fuir et réguler la population de coyotes, ce qui a permis le retour de micro-mammifères, donc les rongeurs. Beaucoup de rapaces sont donc revenus aussi. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'il y a un prédateur, un super prédateur, celui qui est en haut de la chaîne alimentaire, on constate effectivement tout un tas de conséquences sur l'environnement et sur la biodiversité et sur l'équilibre.
Merci pour ces précisions. Samir avait une question également à vous poser.
Bonjour, oui. je m'appelle Samir. J'ai une petite question à vous poser. La question, c'est, est-il justifié de garder des loups en captivité pour les étudier ou même les protéger ?
Alors Samir, bonjour. Alors ça, c'est une question qui, à mon sens, soulève beaucoup de débats. Personnellement, je dirais que non, ça n'a plus vraiment d'intérêt, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi. Bon, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les parcs zoologiques sont vraiment au cœur d'une controverse sur le fait de détenir des animaux sauvages en captivité et sur leur rôle dans la conservation. La captivité, en un sens, ça permet aussi de mettre en place des programmes d'élevage, d'avoir une expertise, d'obtenir des moyens financiers pour entreprendre des actions de conservation in situ, c'est-à-dire sur le terrain, là où il y en aurait besoin. Ça permet aussi de bénéficier d'un outil d'éducation, bien évidemment aussi d'une source de connaissances. Il ne faut pas perdre de vue que bon, les zoos, par exemple, sont surtout un divertissement. C'est un aspect qui permet bien sûr de toucher un public large. Moi, je me rappelle, à vos âges, nous avions visité la réserve de Sigean, par exemple, ce qui permettait aux enfants qui n'avaient pas la chance de voyager ou de vivre au cœur de la nature, de comprendre ce qu'étaient des animaux dits sauvages. Mais voilà, ça, c'est un modèle qui a ses limites. Les programmes de reproduction en captivité, bon, bah, peut-être, ça peut fonctionner, mais souvent, les retours à la nature sont des échecs, parce que ces animaux sont trop imprégnés. Parfois, ça marche. On a le cas, par exemple, d'un zoo tchèque qui avait eu des naissances de lynx et qui ont été réintroduits dans les forêts slovaques, dans les Tatras, où il y a sur 7 naissances, 6 ont fonctionné. Mais ça reste à la marge. Il y a aussi ce problème du choix des espèces conservées. Hein. N'oublions pas que la plupart des zoos sont des entreprises privées, et qu'elles cherchent, elles, à attirer un public. Et pour attirer un public, eh bien, il faut des espèces de type un peu spectacle, quoi. Des gorilles, des lions, des tigres. Il y a vraiment un problème aussi là-dessus, sur quelles espèces les zoos sont capables d'accueillir. Là, parce que les zoos sont en France, par exemple, on ne peut pas forcément, à moins de recréer tout un écosystème compliqué, certaines espèces de batraciens, par exemple. Puis il y a aussi ce qu'on appelle un peu l'illusion de la conservation, en fait. Hein. Le fait que les zoos puissent, soi-disant, faire de la conservation, beaucoup de ces efforts ne résolvent pas les problèmes sous-jacents qui menacent la faune, comme par exemple la déforestation, le changement climatique ou les braconnages.
Merci. Justement, Lisa avait une question sur ce thème environnemental.
Bonjour monsieur, je m'appelle Lisa. Ma question est la suivante. Comment les loups s'adaptent-ils aux changements environnementaux, comme vous le disiez, tels que la déforestation ou le réchauffement climatique dans cette région ?
Bonjour Lisa. Les loups, ce sont des animaux remarquablement adaptatifs et extrêmement résilients. Ça, c'est le pouvoir du loup et aussi le pouvoir du collectif, hein, puisque les loups sont une meute. Et ils sont capables de s'adapter à tous les changements environnementaux significatifs. La déforestation, le réchauffement climatique, pour eux, ce sont des épreuves qui ne sont pas insurmontables. Ils vont savoir adapter et modifier leur comportement en fonction des ressources disponibles et de l'impact direct que les changements climatiques peuvent avoir, ou la déforestation par exemple, peuvent avoir sur les proies et les habitats. Dans les Pyrénées, les loups font face à plusieurs défis environnementaux qui sont surtout liés au changement climatique. On le voit, ça s'accélère depuis quelques années. L'évolution des paysages, et surtout la déforestation. Dans les Pyrénées, ils s'installent aussi bien en forêt qu'en milieu ouvert.
Bonjour, moi je m'appelle Andrew et la question que je vais vous poser, c'est comment fonctionnent les meutes de loups dans les Pyrénées et quelles différences observez-vous entre ces loups et ceux d'autres régions ?
Alors là, ce n'est pas une question non plus très facile, je le disais au début de cette interview. On n'observe que trop peu de loups dans les Pyrénées. Et il est difficile d'y voir des meutes suffisamment conséquentes, observer tous ces comportements-là, voir et en faire la comparaison avec des loups observés dans les Alpes, etc., ou en Pologne, ou en Allemagne. Mais de manière générale, de ce que j'ai pu voir dans différents pays, notamment à l'Est, en Pologne ou en Slovaquie, ou même en Éthiopie, où l'espèce est un peu différente sur bien des points, mais ce qu'on observe toujours, c'est ce collectif assez puissant, où ces loups-là agissent en meute et pour le bien de leur meute, et ça les pousse à s'adapter à toutes les situations. Pour moi, je ne me rangerai pas sous des couverts scientifiques parce que j'ai pas assez de recul pour en parler et j'ai pas trouvé assez d'éléments dans mes recherches en préparant cette interview pour en tirer des conclusions, savoir s'il y a vraiment un comportement particulier dans les Pyrénées. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a, avec le loup que je connais bien, le loup d'Éthiopie, qu'on connaît aussi sous le nom de loup d'Abyssinie, c'est qu'on note quelques différences. Le loup d'Abyssinie, par exemple, lui, c'est un loup qui, grâce à sa faculté d'adaptation, s'est adapté à son environnement afro-alpin, où il a pu trouver une ressource abondante de nourriture, des rongeurs. Et donc, dans un processus très lent de spéciation, d'adaptation, son corps a évolué et ses techniques de chasse aussi. Et il est devenu spécialiste de la chasse aux rongeurs, un peu comme notre renard qu'on connaît bien. Et en soit, il n'avait plus besoin de chasser en meute. Alors, comment agissent ces loups? Quand le matin, ils se réveillent, ils vont tous ensemble contrôler l'ensemble de leur territoire. C'est un territoire très réduit comparé au loup gris de nos Pyrénées, puisqu'il y a abondance de nourriture. D'accord ? Ça, il faut bien comprendre, c'est quelque chose qui est très déterminant chez les loups, qu'ils soient gris ou qu'ils soient loups d'Abyssinie. Il fait le tour de son territoire et ensuite ils se répartissent des zones de chasse où là ils vont chacun dans leur coin chasser des micro-mammifères et faire bombance. Voilà. Et ça c'est quelque chose de très différent, de très frappant par rapport au loup gris qui lui est habitué à chasser en meute. J'ai pu voir des chasses en Pologne où une meute par exemple de loups tirait bénéfice du paysage pour chasser un cerf. Ils l'ont débusqué en haut d'une forêt, ils l'ont acculé dans un goulet dans lequel coulait un petit ruisseau, et à l'endroit le plus étroit où le cerf n'avait plus d'option, aller à droite, à gauche ou même en arrière, les loups l'attendaient. Et c'est ici qu'ils l'ont tué pour nourrir leur famille.
Alors bonjour, moi c'est Maëline et ma question c'est quelles sont les principales causes du conflit entre les loups et les éleveurs dans les Pyrénées et quelles solutions existent pour y remédier ?
Alors ça c'est une énorme question qui fait beaucoup débat. Hein, on le sait aujourd'hui, le loup c'est un animal très stigmatisé et notamment par nos amis éleveurs qui rencontrent parfois des difficultés avec ce prédateur. Ça, c'est le problème majeur que rencontrent les prédateurs et la présence des nombreux troupeaux ovins sont pour eux des proies faciles. Les dégâts causés par le loup, ça reste minime. On ne va pas les ignorer, mais ils s'ajoutent aux défis économiques, les difficultés que rencontrent les éleveurs, notamment avec les concurrences déloyales dues à l'import de viande ovine de Grande-Bretagne ou encore de Nouvelle-Zélande. Qui dévalue fortement le travail et ajouter à cela une pression forte exercée par les loups sur certains troupeaux, eh bien, on rencontre une difficulté compliquée. D'autant que le paysage pyrénéen est très empreint de pastoralisme. Donc pour le loup, il est forcément confronté à ces moments où il va se trouver sur une estive. Et pour lui, ce sera une façon très pratique de trouver à manger. Si on veut permettre au loup de cohabiter avec l'homme, je crois qu'il faut surtout mettre en place des moyens de protection efficaces, des nouvelles techniques, une meilleure compréhension du facteur loup pour en diminuer les dommages. On sait de toute manière aujourd'hui que le meilleur moyen de protection, c'est le chien, appelle le patou. Mais je crois qu'aussi, il faut être un peu plus méthodique, je dirais, on réfléchit en tant que berger, en tant qu'éleveur, et on n'adopte pas forcément la bonne technique. Se mettre dans la peau du loup, ça veut dire anticiper et mieux comprendre ce dernier. L'idée, c'est d'empêcher l'accès au bétail, comme les chiens de protection, des systèmes d'effarouchement visuels. C'est un vrai défi que l'on observe de toute manière partout dans le monde. J'en suis témoin en Éthiopie, et pourtant, là, le loup d'Éthiopie, c'est pas un loup qui est taillé pour chasser des moutons, mais par contre, il peut, sous certaines conditions, s'attaquer à un agneau. Mais ce qu'il faut surtout, c'est aider les éleveurs à mieux comprendre le loup, à mieux se protéger, à les doter de moyens efficaces et peu coûteux. Je pense qu'il faut surtout se mettre autour de la table et, avec l'aide des scientifiques qui connaissent bien le loup, réfléchir aux bonnes dispositions à prendre dans nos Pyrénées.
Très bien, merci. Hugo avait une dernière question à vous poser.
Quel conseil donneriez-vous à un élève souhaitant exercer votre métier ?
Moi, j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous donner les moyens de réaliser. Bref, bon, moi, j'étais pas parti pour être photographe animalier, mais il y a eu un jour juste déclic et où je me suis dit, ben, ce qui m'animait le plus, c'était de vivre à l'aventure, d'être au cœur de la nature. Et de l'immortaliser. Voilà, j'ai mis à profit tout un tas de passions. Il faut s'accrocher et croire en soi, et essayer de faire ce que l'on a envie de faire. Croyez en vous, faites ce que vous avez envie de faire et donnez-vous-en les moyens.
Voilà, alors je me tourne un petit peu vers les élèves. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser en complément ?
Bonjour, c'est Samir. Quel type d'études faudrait pour exercer votre métier ?
Alors, il y a des formations, il y a des diplômes, il y a des écoles de journalisme et de photographe. Moi, je suis complètement autodidacte, hein, mais ça ne m'empêche pas de faire mon métier. Il existe des formations et des cursus scolaires pour apprendre le métier de photographe animalier et de vidéaste animalier même. Par exemple, vous avez une école qui s'appelle IFCAM, qui est dédiée à ça, donc c'est aussi une voie à explorer.
Très bien. D'autres questions, Lisa ?
En début d'interview, vous avez parlé de vos photos. Dans quel but vous prenez des photos ? Est-ce que c'est pour, par exemple, des manuels scolaires, des choses comme ça ?
Eh bien, les photographies sont tout à fait utiles parfois pour des manuels scolaires. J'en ai fait, par exemple, l'expérience très récemment, puisque je suis co-auteur d'une étude, par exemple, sur la possibilité que des grands canidés, notamment le loup d'Abyssinie, soient un pollinisateur potentiel. Alors, cette étude a eu un petit retentissement international et bouleverse beaucoup de et soulève beaucoup de questions chez les scientifiques. Et figure-toi que mes images, première documentation de loups en train de butiner des fleurs, par exemple, ont été publiées dans des manuels scolaires pour les États-Unis ou pour de nombreuses revues scientifiques. Et ça, c'est une petite fierté quand même de pouvoir faire partager au monde entier en images, parce que des fois, une image vaut mille mots, ces petites découvertes.
D'autres questions ? On a épuisé les questions ? J'en avais une peut-être, on a une différence peut-être entre le loup d'Abyssinie et le loup des Pyrénées. La réintroduction du loup en France et en particulier dans les Pyrénées, elle s'est faite naturellement ?
Il n'y a pas eu de réintroduction en fait. C'est ce qu'on disait en tout début de cette interview, c'est que le loup est revenu de lui-même, naturellement, donc comme vous le disiez dans votre question à l'instant. Grâce à ce formidable pouvoir hein, que le loup a, c'est-à-dire la dispersion. Et d'ailleurs, maintenant, on le voit, cette dispersion, on observe des loups un peu partout en France. Très récemment, dans la Manche, par exemple, où malheureusement un éleveur a eu un souci, et dans la Loire aussi. Donc c'est très intéressant. Ce qui se passe chez les loups, c'est qu'une meute ne peut vivre sur un certain territoire qu'avec un certain nombre d'individus. Et quand ils deviennent trop nombreux et que le territoire n'est pas forcément extensible, eh bien, des loups, certains individus d'une meute, vont d'eux-mêmes décider d'aller chercher un nouveau territoire. Pour faire cela, ils sont capables de faire 2000 kilomètres. Donc, ils peuvent rayonner vraiment très large, vous voyez. Et c'est comme ça que les loups sont revenus sur des écosystèmes qui avaient la capacité de les accueillir, c'est-à-dire peu de pression humaine. Alors, quand je dis peu, c'est relatif, puisque bon, on connaît la pression anthropique en France, mais donc ça compte, mais aussi les proies disponibles. Bon, il aura fallu quelques décennies, mais on observe aujourd'hui que les loups reviennent, et naturellement, de façon naturelle.
Samir avait une question supplémentaire à vous poser.
Ouais.
Ma dernière question, ce serait, est-ce que vous auriez un nombre à peu près de loups qui seraient dans les Pyrénées ?
Dans les Pyrénées, je n'ai pas un chiffre très précis. On sait qu'en Occitanie, donc c'est plutôt, ça n'inclut pas que les Pyrénées, mais ça inclut quand même des Hautes-Pyrénées jusqu'aux Pyrénées-Orientales, on sait qu'il y aurait une quinzaine de loups. Mais ce chiffre est à prendre avec des pincettes, d'accord ? Parce qu'il y a trop peu de suivi écologique sur l'espèce, faute de moyens, Et donc, on ne sait pas précisément. Il y en a très certainement un peu plus que 15, mais ça reste difficile à quantifier. Voilà, c'est extrêmement compliqué parce que il faut investiguer, il faut trouver des traces évidentes, faire des analyses, et le temps scientifique est beaucoup plus lent que le temps des observations.
Très bien, merci beaucoup Monsieur Le Saffre pour vos réponses éclairantes à nos questions. Merci pour cette interview. Alors nous comprenons maintenant à quel point le loup joue un rôle essentiel dans notre environnement. Il est clair qu'il ne mérite pas la mauvaise réputation qu'il peut parfois avoir. Thank you.